Bonsoir. Des transports en commun au ralenti, des perturbations dans les centrales nucléaires, dans les raffineries, et puis de nouvelles manifestations dont certaines ont encore dégénéré, ça et là. Journée assez ordinaire cette semaine. Et comme hier, eh bien, le Premier ministre affiche sa détermination. On ne peut pas bloquer un pays. Ça semble clair, mais pour combien de temps exactement? Parce que apparaissent des dissensions dans la majorité autour du fameux article 2. Alors Valls affiche sa fermeté, mais ira-t-il jusqu'au bout? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
L'écho consacré à ces conflits. Tiens, tout à l'heure, à 20h, on se posera une question. Est-ce que l'euro 2016, qui démarre dans deux semaines maintenant en France, peut-il être menacé par les grèves? Oui, il y a encore un certain nombre de préavis de grève qui ont été déposés aujourd'hui pour couvrir toute la période du championnat d'Europe de football. Et puis on est là, nous, les décodeurs, à la différence de la presse écrite, privés de tirage ce matin, parce que les journaux avaient refusé le diktat de la CGT. Voilà, ils leur demandaient donc, eh bien, à la CGT de faire paraître une tribune de Philippe Martinez. Tous ont refusé, sauf l'Humanité, et tous ont été privés donc de parution. On rappelle, la mort de Staline, c'était il y a presque 70 ans, en 1953. Jean Garrigue est avec nous, historien, spécialiste d'histoire politique, professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Orléans à Sciences Po Paris, auteur de Chaban-Delmas, l'ardent. L'économiste Alain Fabre est avec nous, expert auprès de la Fondation Robert Schuman. Et puis Mathieu Jolivet, reporter à la rédaction de BFM Business. Alors, hier, on s'était déjà posé la question, début ou pas de reculade. Écoutez Michel Sapin, c'était ce matin sur la chaîne parlementaire, et puis, juste après, sur RMC, le Premier ministre Manuel Valls.
Peut-être qu'il faut toucher à l'article 2 sur des points, tout ça sont des sujets qu'il faut regarder dans le détail, parce que le dialogue, c'est ça, c'est d'être en finesse.
Non, on ne touchera pas à l'article 2. Mais on peut toujours améliorer, toucher tel ou tel aspect, on peut toujours le
donc
faire.
Donc on peut toucher à l'article 2.
Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, mais la philosophie de l'article 2, la négociation dans l'entreprise, ça, on n'y touchera pas.
Voilà, Premier ministre qui recadre assez sèchement son ministre des Finances, Michel Sapin, vous avez entendu donc cet échange court, bref, viril, dirait-on, donc sur la LCP et puis sur BFM, sur RMC. François Hollande, depuis le Japon, il assiste au G8, au G7, hein, François Hollande. Il a donné raison à Manuel Valls, ce qu'a dit le Premier ministre, notamment à propos de l'article 2 du projet de loi, et ce qu'il fallait dire. En fait, il y a vraiment divergence entre Valls et Sapin ou pas, à votre avis?
Non, en fait, Fabrice, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait tous en tête ce qui se passe réellement aujourd'hui. C'est que sur la forme et officiellement, on a une stratégie ferme qui est tenue par le gouvernement, par François Hollande et par Manuel Valls. Et ils disent exactement la même chose depuis le début, car face à la CGT, c'est fermeté, même si... Et donc, on ne touche pas à la philosophie du texte, mais... En coulisses, ils essayent quand même de regarder si jamais il y a des petits points qu'on peut améliorer sans toucher à la philosophie du texte. Et ça, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et après, je pense qu'il ne faut pas non plus céder à cette espèce d'hystérie collective, hein, dont le gouvernement est sûrement responsable aussi, parce qu'il a très mal vendu depuis le début sa loi travail. Et le problème, à mon avis, vient plus de là. Mais il ne faut pas céder à cette hystérie collective qui vise à, dès qu'on nous dit qu'on va toucher à une micro-virgule peut-être du texte, tout le monde se demande si on retire ou pas le projet de loi. Ou
et
si
le fameux article 2. Rappelez-le nous, cet article 2.
Voilà, parce qu'en fait, cet article 2, c'est là où se cristallisent toutes les tensions. Il donne en fait beaucoup plus de pouvoir aux négociations au niveau de l'entreprise. L'idée de cet article 2, c'est de faire en sorte que demain, chaque entreprise puisse s'adapter en fonction de son propre environnement, en adoptant son accord avec ses salariés pour moduler son temps de travail ou ses salaires, sans en référer forcément aux branches syndicales, puisque cet accord serait plus fort que l'accord de des branches. Et c'est ce qui est interprété comme l'inversion de la hiérarchie des normes. Et ça, c'est vraiment le cœur du problème. Emmanuel Valls et François Hollande disent depuis le début, cette philosophie-là, ça ne changera jamais. Et quand ils disent qu'ils peuvent après discuter sur des modalités de donner un peu plus de pouvoir aux branches, on pourra plus tard rentrer dans le détail si vous voulez, c'est, à mon avis, un écran de fumée pour dire on peut quand même discuter. Et jamais, jamais, je pense aujourd'hui, ils ne retireront ce texte, à moins que Manuel Valls démissionne face à la pression de la rue.
On va voir, attendez, voilà. On va pas griller les étapes. Oui, Jean Garrigue, oui. Qu'est-ce que ça traduit ces discours apparemment contradictoires dans la majorité autour de ce fameux article 2, un broglio autour de l'article 2?
Non, ils ne sont pas contradictoires en ce qui concerne les deux têtes de l'exécutif. Et pour une raison fondamentale.
Hollande et Valls.
Hollande et Valls. C'est que, alors il y a d'une part le tempérament de Manuel Valls, il y a des raisons politiques pour que la fermeté l'emporte, c'est-à-dire pour que le texte ne soit pas retiré. Ce serait un nouveau recul après la loi sur la déchéance nationale qu'il est absolument impossible d'admettre pour François Hollande comme pour Manuel Valls. Mais il y a surtout quelque chose qui est derrière, c'est que cette inversion de la hiérarchie des normes, elle est la tentative pour Manuel Valls et François Hollande, ou pour François Hollande et Manuel Valls, de créer un nouveau type de dialogue social, de créer une sorte de nouvelle démocratie sociale, qui correspond d'ailleurs à ce que les anglo-saxons, les allemands ont appelé la social-démocratie en réalité. C'est-à-dire que l'accord d'entreprise, ça veut dire faire dialoguer les partenaires sociaux, défausser l'État de la responsabilité de ce dialogue social. Le gros problème, c'est qu'on voit bien que les partenaires sociaux, que ça soit d'un côté la CGT en pointe et le MEDEF, ils sont sur des lignes un tout petit peu différentes. On voit bien la difficulté à faire passer cette ligne-là. Mais fondamentalement, elle explique aussi, au-delà des raisons d'opportunité politique, elle explique la volonté, la fermeté. Bon, Manuel Valls, c'est Clémenceau, donc il est ferme, mais il y a autre chose. Il y a véritablement ce projet derrière l'inversion de la hiérarchie des normes.
Alain Fabre, économiste expert, justement, et vous avez planché, vous, sur un certain nombre de réformes qui ont été menées sur la scène européenne, les lois Hartz en Allemagne, l'Italie également, que vous connaissez bien.
Le Job Act, oui. D'une certaine manière, ce que reprend Manuel Valls, c'est une idée européenne qui fonctionne assez bien, c'est que la flexibilité sur le marché du travail, la flexibilité au niveau de l'entreprise, ça produit des résultats relativement efficaces. Hein. Donc, effectivement, vous citez les lois Hartz en Allemagne, mais là, ça s'est fait avec un consensus syndical, cette affaire-là. Hein. Dans le cas italien, il y a toujours un petit peu de prestigiation un peu tragicomique en Italie, mais au fond, si vous voulez, le mouvement était engagé, et surtout, la situation du chômage en Italie était assez dramatique, de telle sorte qu'au fond, mis à part quelques postures de façade, les Italiens ont accepté assez facilement. Alors, les résultats, il faut le dire, puisqu'on prend, on suit toujours l'Allemagne, qui a des résultats toujours impressionnants, mais l'Italie, depuis la mise en place des réformes de Matteo Renzi, le Job Act, 200 000 emplois, et le taux de chômage a quand même baissé. Je rappelle, parce que c'est souvent perdu de vue, que ceux qui profitent en priorité de ce type de réforme, ce sont les jeunes. Ce sont ceux qui sont exclus du marché du travail. On avait un marché du travail en Italie et en France qui se ressemblait beaucoup. Des insiders très fortement protégés, des outsiders, au contraire, complètement démunis. La surprotection des autres, des uns, contre la surprécarité des autres.
Alain Fabre, vous mettez en avant le consensus qui a prévalu donc dans les pays que vous avez cités. Pourquoi en France, on en arrive à une telle confrontation, à une telle rupture, donc, en mai 2016?
Alors, là-dessus, la France, pour moi, il y a vraiment une singularité française, et qui n'est pas d'hier matin. Je dirais que, de sa manière, la France est une société du ressentiment. Et donc, de cette manière, aujourd'hui, ce ressentiment, c'est toujours un petit peu organisé autour d'une idée. L'idée, ce que j'appelle ça aussi le pacte caché français. D'un côté, une noblesse d'État qui a le pouvoir et qui gère la société du haut de l'État, cette noblesse d'État. De l'autre côté, la population qui dit, écoutez, j'ai pas le pouvoir, ok, mais en contrepartie, vous garantissez les rentes sociales. Et donc, le problème français aujourd'hui, c'est que ce pacte est usé. Ça explique l'état de délabrement de l'économie française et même de début d'implosion de la société. Hein. Donc, les dirigeants savent que ça n'est pas tenable. Et ça, là-dessus, il y a vraiment... je pense que le gouvernement a raison de faire les choses. Simplement, c'est compris politiquement et socialement comme une mise en cause des garanties sociales. C'est le pacte qui est fissuré aux yeux de la population et des syndicats.
L'historien Jean Garrigue.
Oui, évidemment, je souscris totalement à ce qui vient d'être dit. C'est une culture qui est séculaire et je dirais même multiséculaire. C'est pas un hasard si on a fait la Révolution française. On est dans une difficulté fondamentale à faire dialoguer les partenaires sociaux parce qu'ils sont peu ou prou représentatif. On voit bien aujourd'hui ce qui se passe dans ce jeu de cette concurrence ou cette tentative pour la CGT de retrouver un leadership syndical qui est fondamental dans la démarche de la CGT aujourd'hui. On voit bien aussi de quelle manière Force ouvrière va sans doute être la clé de la renégociation, non pas de la philosophie, l'article 2 qui doit faire 60 pages quand même, mais donc de retrouver une sorte de souplesse dans cet article.
Pardon, j'ouvre une parenthèse. Comment Force ouvrière peut-elle servir un peu de go-between, un petit peu?
La CFDT ayant déjà, s'étant déjà ralliée au texte dans sa nouvelle mouture, la CGT étant dans une position d'intransigeance, c'est FO qui a les clés, me semble-t-il, de la solution politique immédiate. Mais fondamentalement, évidemment, ce que ça pose au fond, c'est, je le répète, c'est cette tentative d'instaurer de nouvelles pratiques de... C'est très vieux, hein, les pratiques contractuelles, etc. Ça date des années 60, hein, cette tentative-là de changer le modèle français, de changer les fondamentaux du dialogue entre l'État et les partenaires sociaux. C'est quelque chose de très ancien. Mais on se heurte une nouvelle fois à cette culture de la protestation, à ce jusqu'au boutisme de syndicats qui, eux, ont une culture, il faut le rappeler, la CGT, c'est une culture, là aussi, séculaire de la Révolution. Hein. C'est 1895, ce sont des anarcho-syndicalistes, et cette culture-là, passée dans le moule du communisme, elle est toujours là.
Oui, peut-être juste deux choses rapidement, mais déjà, il y a eu quand même une forme de consensus quand même, hein, qui n'était peut-être pas intégrale, mais il faut voir que ce texte sur lequel on parle aujourd'hui, qui cristallise toutes les tensions, il était quand même adoubé et par la CFDT et par le MEDEF, même si le MEDEF regrettait la première version qu'il préférait. Oui. Mais voilà, donc il y avait quand même une forme de consensus. Deuxième chose, pour revenir sur Force ouvrière, Jean-Claude Mailly était chez nous il y a une vingtaine de minutes et on parlait avec lui. Et ce sera peut-être plus difficile, il sera pas forcément la clé de cette résolution de crise, hein, parce que lui dit clairement qu'aujourd'hui, si le gouvernement veut discuter avec FO, au préalable, il faut geler les discussions en cours, geler le projet de loi, retirer l'article 2, et ensuite on se remet tous autour de la table. Ouais. Manuel Valls n'acceptera jamais ce préalable.
Forcément,
donc,
évident, ouais.
Ce sera pas évident.
C'est Philippe Martinez, hein, qui a déclaré avoir demandé à être reçu par François Hollande, sans réponse pour l'instant, dit-il. Hein. Il accuse le gouvernement de n'avoir aucune volonté de discuter avec le premier syndicat de France. Qui refuse de parler avec qui dans cette histoire? Parce qu'on a l'impression que ça parle plus. Il y a du blocage. Jean Garrigue, un mot sur le...
Non, je pense qu'il y a eu au départ une absence de négociation. Ça, tout le monde l'a observé, tout le monde l'a dit. Je crois même que Jean-Claude Mailly le disait aussi. Maintenant, aujourd'hui, incontestablement, on voit bien que l'intransigeance, elle est quand même plus du côté de ceux qui protestent, y compris d'ailleurs sur le terrain politique. On a très bien vu que le rapporteur socialiste du projet, Monsieur Cyrulle, avait cherché à améliorer et trouver des solutions qui pouvaient rallier les frondeurs au projet. Et sur le plan syndical, on a la même chose. Vous voyez ce que vous dites sur Jean-Claude Mailly. Et comme toujours, c'est très très vieux cette histoire-là. Au fond, la gauche, on va dire, la gauche un peu plus modérée que représente FO, elle subit la surenchère de ce qui est à la gauche de la gauche, c'est-à-dire de la CGT. C'est un vieux, un très très vieux phénomène, mais il se retrouve aujourd'hui.
Alain Fabre, économiste expert à la Fondation Robert Schuman.
Oui, moi je suis un petit peu sceptique sur le scénario, j'allais dire euro, sur la sortie de crise par un compromis. Parce que d'une certaine manière, les deux pôles de la discussion se sont mis en position justement de pas pouvoir sortir de cette façon-là. Quand vous réclamez le retrait du texte au Premier ministre, et qui vous répond, de toute façon, je ne toucherai pas à l'article 2, c'est pas parce qu'on va chercher quelques experts en reformulation du texte qu'on va trouver une solution. Donc je crois qu'effectivement, on va avoir une séquence, on a eu différentes séquences qui se ressemblent beaucoup. On a eu en 95 le retrait de la réforme Juppé, qui était soutenue à l'époque par la CFDT, par Nicole Notta. Donc cette fois-ci, le pouvoir a reculé. On a eu un deuxième épisode en 2006 avec le retrait du CPE. En 2010, on dirait un match à Roland-Garros. Cette fois-ci, c'est Nicolas Sarkozy qui a gagné la manche.
Sur les retraites,
c'est quoi? En activant les actes de réquisition. Et donc là-dessus, c'est à dire une sortie, parce qu'une réquisition, par définition, c'est pénal. Oui, et puis là, la balle de match, je sais pas qui l'a.
Pour renforcer ce que vous dites, je discutais avant-hier avec un conseiller de François Hollande qui, où c'est vraiment dans son ADN, c'est quelqu'un qui privilégie toujours la négociation. Et ce qu'il me disait avant-hier, c'était, il avait un ton très ferme, et il me disait de Philippe Martinez, il veut jouer à ce petit jeu-là, nous on a des stocks stratégiques, on verra bien qui se lassera en premier. Ouais. Ça lui ressemble surtout pas ce ton, donc montre bien que les positions sont figées. Hein, là.
Et positions figées, hystérisation du climat politique et social, c'est pas moi qui le dis, c'est Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT.
Effectivement, on est dans un contexte de crise démocratique, d'une certaine manière, en tout cas d'hystérisation de la vie sociale. Moi, je voudrais qu'on parle des droits nouveaux qui sont contenus dans le compte personnel d'activité, sur lequel la CFDT s'est beaucoup battue. Je voudrais qu'on parle aussi de la négociation d'entreprise, parce que c'est bien là que les syndicats peuvent, avec les salariés, construire des droits également. Parlons de ce sujet, et surtout, essayons de sortir de ce climat délétère qui est celui d'aujourd'hui.
Voilà, Laurent Berger est donc le numéro 1 de la CFDT sur BFM TV cet après-midi. Oui, comment sortir de ce climat délétère? En tout cas, ce soir sur France 5, Madame El Khomri exclut de dénaturer, dénaturer son texte en revenant sur la primauté de l'accord d'entreprise. Alors, comment on en sort, Jean Garrigue? C'est quoi les scénarios? On retire la loi travail, on se sépare de Valls, on fait un référendum, ou alors il va jusqu'au bout, Manuel Valls.
L'hypothèse, c'est qu'ils iront jusqu'au bout. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est politiquement impossible de ne pas aller jusqu'au bout. Donc, il faut rechercher à un moment donné, si la modification de l'article 2 n'est pas possible, il faut rechercher évidemment la réquisition, les preuves de force.
La fermeté, voilà. La
fermeté
force.
Qui, en jouant évidemment sur l'évolution de l'opinion publique. Mmh. Parce que ça, c'est un facteur déterminant.
Or, un peu compliqué l'opinion publique quand même. Bon, oui, elle aimerait bien prendre de l'essence. J'imagine qu'elle voudra aller voir les matchs de foot dans 2 semaines, très bien. Mais en même temps, elle est assez hostile quand même à cette loi travail, non?
Moi, je pense qu'elle est fondamentalement hostile au gouvernement et à François Hollande. Qu'au fond, la loi travail a été la cristallisation d'un mécontentement général qui a commencé il y a quelques années. Parce qu'au fond, je pense que très peu de gens connaissent en détail ce qui est dit dans la loi El Khomri, la manière dont le projet a évolué.
Quand vous dites déjà sur l'article 2, il y a une soixantaine de pages, pardon, oui, c'est vrai.
Il y a une soixantaine de pages. Et la difficulté à expliquer aussi le déficit de pédagogie, ça qu'a reconnu Manuel Valls lui-même. Il y a eu un déficit d'explication sur cette...
Complètement. On n'imagine pas, quand on vous écoute, Jean Garrigue, qu'il y a un retrait de cette loi travail, de cet article 2. C'est quoi les avantages et les inconvénients donc d'un retrait?
Alors, franchement, pour François Hollande et Manuel Valls, il n'y aurait aucun avantage à retirer ce projet. Ce serait au contraire une énième reculade, une reculade fatale. Ce serait à terme, là aussi, échouer dans ce projet de faire évoluer la gauche, de faire évoluer cette idée, je le répète, d'un nouveau partenariat social, hein, qui est quand même, je le répète, sous-tendu dans ce projet. On n'en parle pas, mais il est là. Hein, cette idée, elle est là. Cette idée, je le répète, de substituer le dialogue social à cette toute-puissance de l'État. On parlait tout à l'heure j'avais publié un ouvrage sur la nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas. C'était déjà des idées qui étaient présentes chez Chaban-Delmas et qui sont présentes dans toute une partie de la gauche depuis très longtemps, hein, chez des Jacques Delors, chez des Michel Rocard, on trouve ces idées-là. Simplement, il faut arriver à les imposer d'abord à la culture de gauche et puis à la société française.
Chaban-Delmas, l'ardent, hein, c'est le livre de Jean Garrigue. Alain Fabre, économiste.
Oui, je voudrais prolonger ce que Jean Garrigue vient de dire, parce qu'au fond, si vous voulez, je vais reprendre le titre d'un vieux livre de Lionel Stoliru. Il y a deux France dans cette histoire-là. Et donc, au fond, c'est le combat entre deux France. Donc, vous avez deux France, et du coup, vous avez aussi deux gauches qui répliquent un petit peu les clivages sociologiques. Et donc, vous avez une France aujourd'hui qui est, avec des guillemets, dans la mondialisation, qui est dans l'économie concurrentielle et qui est dans la réalité, si vous voulez, qui fait tourner les entreprises, qui a besoin de boulot, choses comme ça. Et puis, vous avez une France, il n'y a pas que la gauche, mais il y a une France et une gauche, qui est la France des statuts. Et là, si vous voulez, aujourd'hui, on sait que ce modèle social-là, il est cramé jusqu'à la dernière ficelle, si j'ose dire. Vous avez en fait, moi ce que je voudrais dire, c'est que vous avez une pensée de gauche qui est un petit peu incarnée par Emmanuel Macron, qui a été entièrement renouvelée ces dernières années. Prenez des gens comme Philippe Aguillon, qui a fait un bouquin sur changer le modèle social, qui est un bouquin remarquable. Des gens comme Élie Cohen, qui a un petit peu, je veux dire, systématisé le désastre industriel français. Au passage, les petits jeux derrière lesquels nous abritons pour donner ce spectacle international, c'est quand même, sur le plan industriel, 2,5 millions d'emplois industriels perdus ces 25 dernières années. Aujourd'hui, je le répète souvent, Le poids de l'industrie en France, je dis bien le poids, la part relative, hein, je raisonne en termes relatifs, c'est le même que celui de la Grèce. La France aujourd'hui n'est plus une puissance industrielle. L'Italie est largement devant, si vous voulez. Alors l'Allemagne, c'est le Weltmeister, si je veux dire. Donc aujourd'hui, vous avez une économie qui s'effondre, une société qui implose, et des gens qui s'accrochent à leur statut, pardon de la comparaison, comme les passagers du Titanic.
Ouais, Mathieu Jolivet
ne peut pas voir ce projet de loi retiré. Pourquoi ? Parce que c'est le président de la République le plus impopulaire de la Ve République. Il le sait, mais il met des œillères. Et il veut que plus tard, on retienne de ce quinquennat au moins trois choses, trois piliers qui sont le mariage pour tous, mm-hmm. il l'a fait, la carte de la France qu'il a changée, mm-hmm. les nouvelles régions, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il l'a fait, et une rénovation du dialogue social. C'est donc le troisième pilier du bilan de son quinquennat qui est en jeu, et il va pas l'enlever comme ça.
Juste, vous avez utilisé des expressions l'un et l'autre, Alain Fabre, parler de début d'implosion, Jean Garry tout à l'heure, de culture de protestation. Quand on voit encore aujourd'hui, à l'occasion de cette 8e journée de manifestation dans les rues, apparemment, il y a eu un petit peu plus de monde à Paris, hein. 18, 19 000 selon la police, 100 000 selon la CGTFO. Et encore une fois, des vitrines cassées, encore une fois, des déprédations, encore une fois, des affrontements entre des voyous cagoulés et les forces de l'ordre. Qu'est-ce que ça traduit, on peut parler vraiment d'implosion, d'explosion sociale, d'insurrection? Oui, non, ou pas, Jean Garrigue? Vous qui êtes historien?
Moi, je pense que les ingrédients de l'insurrection se heurtent à l'émiettement des mouvements et des intérêts. Donc, je ne crois pas.
C'est aussi pour ça que la CGT en rajoute, parce qu'il y a peut-être moins, il y a eu peut-être moins de monde lors des 7 précédents rassemblements.
Évidemment.
Et du coup, elle montre un petit peu plus les muscles.
De manière évidente, on a essayé une stratégie, c'est celle de la manifestation, de la grève. Là, on essaye une stratégie du blocage.
Ça a du mal à cristalliser les mouvements entre, par exemple, Nuit debout. La CGT avait du mal, oui. était très mal à l'aise pour s'allier avec Nuit debout. Aujourd'hui, Nuit debout, on n'en parle plus.
Non, c'est vrai.
On est dans des formes de protestation, justement, qui sont très différentes les unes des autres, qui traduisent évidemment un malaise sociétal, qui traduisent de manière là aussi très évidente une coupure entre la population et les élites, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et les pouvoirs. Mais seulement, cette crise, c'est une crise de civilisation qui est tout à fait logique, au fond. On est dans. On passe d'un modèle de société à un autre. On passe dans la société du 21e siècle. C'est normal qu'il y ait. C'est simplement, il y a un moment où le pouvoir politique doit rester le pouvoir politique. Il a un mandat démocratique et il est logique aussi qu'il aille jusqu'au bout.
Comment le gouvernement doit s'en sortir? C'est la fermeté, c'est la force, c'est la réquisition, ce sont les dépôts stratégiques.
Il ne peut s'en sortir que par la fermeté. Or, il faut qu'il s'en sorte par le haut. Donc, il faut qu'il s'en sorte en faisant passer cette loi.
Alain Fabre.
Oui, je voudrais faire deux remarques à ce sujet. Le premier, c'est que, de sa manière, plus la société française se transforme, vous avez rappelé un certain nombre d'étapes ces dernières années, et plus, d'une manière, on surjoue, ce que j'appelle, c'est un titre de Mona Ouzouf, la fête révolutionnaire. Et donc, effectivement, on revient tous les gens, un certain nombre de fois dans les décennies, on revient sur la fête révolutionnaire. Donc, il y a ce côté un petit peu, on va se shooter avec un petit air de Robespierre. Et puis, la société française qui, dans ses profondeurs, change profondément. Et donc, on a ces deux cultures aujourd'hui qui sont vraiment en bagarre, parce que c'est l'une ou l'autre. Donc, je crois que, pour prendre votre remarque sur François Hollande, depuis Charlie Hebdo, il est quand même dans une séquence, c'est-à-dire, où on rejoue l'autorité de l'État. Donc, il assumait, avec une sorte de surprise par rapport à l'image qu'il avait donnée jusqu'alors. Bernard Cazeneuve incarnait très bien cette ligne sur le plan de la sécurité. Manuel Valls rappelait ces jours-ci depuis Israël qu'il avait été mis à l'intérieur. Et donc il y a vraiment un style autoritaire qui, est à mon avis, est assez bien reçu par la force profonde. Et si vous me pardonnez d'ajouter une phrase de plus, c'est que je dirais que dans une séquence, on voit bien que d'abord, quelques bonnes nouvelles sur le chômage pourraient encourager François Hollande à continuer l'aventure. Il a de ce point de vue-là la possibilité, disons, de toujours utiliser les formules de tennis, de passer une balle de break. S'il rate cette affaire-là, il peut même plus se présenter, à mon avis.
Mais ce qui est intéressant aussi, ce qui en dit long sur les rapports de pouvoir au plus haut niveau, c'est de voir comment ils se répartissent les rôles en ce moment, François Hollande et Manuel Valls, parce que on voit que c'est Manuel Valls, pour le moment, jusqu'ici, qui est en première ligne pour afficher les messages de fermeté. Et qu'est-ce que fait au même moment François Hollande? Il est au Japon, il prend de la distance et il veut en tout cas faire passer l'image d'un président qui prend de la hauteur. Hier matin, au moment où Manuel Valls était en train de de lancer des grands messages de fermeté depuis Israël. Lui était le président sur France Culture pendant une heure où il participait à la fabrique de l'histoire et où il délivrait des messages en disant voilà quelle marque je veux laisser à l'histoire sans parler du conflit actuel.
On va continuer dans un instant autour de ces grèves, de ces blocages. Hein. On verra justement les secteurs impactés de plus en plus. Les ports, les navires qui choisissent non plus maintenant Le Havre, mais Anvers, qui vont plus à Marseille, qui vont ailleurs, qui vont en Italie. On verra ça aussi avec le transporteur routier, on verra avec la Fédération des combustibles. Hein. C'est dans un instant. L'euro aussi peut-il être menacé par les grèves? Rendez-vous vers 20h, d'ici 15-20 minutes. Je remercie Alain Fabre, expert auprès de la Fondation Robert Schuman, Mathieu Jolivet de BFM Business, et puis l'historien Jean Garrigue, professeur d'histoire contemporaine à Orléans, à Sciences Po Paris. Et on le rappelle, puisque le week-end va démarrer, Chabon Delmas, l'Ardent. Restez avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business. On revient vite.